Vous écoutez France Culture.
Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Diane Meur, qui a traduit « La vie hors du temps » de Tézer Özlü aux éditions Bleu Autour. En traversant la rue devant la gare, je reconnais tout de suite à gauche l'avenue que Pavese a dû emprunter le plus souvent. Il me semble que nous allons nous rencontrer à une terrasse de café et laisser là notre solitude. D'après ces descriptions, pourtant, je m'attendais à trouver la ville que, vue d'Istanbul, j'admirais tant à l'époque pour ses avenues, ses places, l'éclat européen observé à Trieste. Ce que j'ai sous les yeux est une ville grotesque et à première vue oppressante. Je me dis que j'ai cette impression parce qu'il s'est tué ici. Mais à l'époque où je découvrais son monde, ses petites joies au milieu de la souffrance, du mal de vivre et des rêves de mort, je savais déjà qu'il s'était tué ici. C'est avec ces pensées que je traverse la rue et me présente à la réception de l'hôtel Bologna. Je crains que ce ne soit l'hôtel où il s'est tué. Nulle part, les hôtels ne peuvent avoir d'aussi longs couloirs qu'à Turin, de longs couloirs comme dans le château de Kafka, ou dans les états d'angoisse, les cauchemars. Des couloirs qui mènent au bout de la vie. Si j'en avais vu de tels en rêve, je me serais réveillé en criant. À chaque étage, il court sur 1 kilomètre au moins. Obscur. Les draps usagés y atterrissent. Des lits d'appoint sont rangés dans les coins. Dans la chambre qu'on veut me donner, la peinture du plafond s'écaille. Je dis non, non, c'est trop mélancolique pour moi. Dans chaque tas de draps usagés, je vois déjà des cadavres de suicidés. Traduisez de l'anglais et de l'allemand, Diane Meur. Vous avez notamment, vous me le disiez avant le début de cette émission, traduit quelques livres de Paul Nison, qui était avec nous il n'y a pas très longtemps ici. Et vous avez vous-même publié des romans chez Sabine Vespuiser. Il y en a 4 ou 5, je crois.
Voilà, c'est ça, je partage mes activités entre la traduction et l'écriture de manière plus ou moins équilibrée et qui me convient très bien. C'est une sorte d'équilibre aléatoire. Enfin, ça dépend des périodes. Et je suis très heureuse que Tézer Özlü elle-même ait été une traductrice comme moi, une traductrice de l'allemand. Donc c'était déjà un point commun entre nous. Et ça fondait entre autres ma sympathie, mon affinité pour cette femme.
Alors, il s'est passé une chose que vous allez nous raconter, la découverte d'un grand livre.
Absolument. Avant la lecture de ce livre et sa traduction, il y a déjà eu comme un petit roman entre moi et les éditeurs que j'ai rencontrés il y a peu de temps, il y a un an et demi, à un salon du livre. On a sympathisé autour de la ville d'Istanbul qui signifie pas mal de choses pour moi. Et voilà qu'ils me mettent entre les mains l'autobiographie d'une auteure dont je ne connaissais rien, qui était Tezer Özlü. Je connais très mal, je dois l'avouer, la littérature turque.
Tezer, hein, ça s'écrit. Tezer. Je le dis parce que voilà. Quand on prononce le nom, on ne distingue pas forcément. Tezer, T-E-Z-E-R, Özlü, O, tréma, Z, L, U, tréma. Et c'est un nom qu'il faut retenir.
Voilà. Et donc je repars, au bout de quelques semaines peut-être, je lis cette autobiographie qui s'appelle « Les nuits froides de l'enfance ». Et j'ai une sorte d'éblouissement, quoi, de coup de foudre absolu. Enfin, je me dis, mais il y a très longtemps que je n'ai plus lu quelque chose d'aussi extraordinaire. Quel dommage que je ne connaisse pas mieux cette langue, cette culture. Et puis en lisant la petite notice biographique qui était à la fin du livre, je m'aperçois qu'elle a écrit en allemand. Et en particulier un livre qui aurait reçu un prix, le prix de Marbourg en Allemagne. Je me dis, mais incroyable, quoi, je vais pouvoir la traduire. Voilà, elle écrit en allemand, je vais pouvoir le... Et je cherche et je ne trouve nulle part ce livre. Alors j'en reparle aux éditeurs, je dis, mais vous parlez d'un titre là, donc, que je ne trouve nulle part sur les sites de librairie. Et en fait, on s'aperçoit que ce livre a reçu un prix sur manuscrit, mais n'a jamais été publié. Et là commence quelque chose d'encore plus rocambolesque. Enfin, les éditeurs qui vont souvent à Istanbul se mettent en contact avec la sœur et la fille de Tezer Özlü, s'aperçoivent qu'effectivement le manuscrit est là dans ses archives, prêt à être photocopié et emporté sous leurs bras. Et donc je me retrouve avec un tapuscrit allemand, totalement inédit. Parce qu'à vrai dire, elle en a tiré une autre version turque, mais qui apparemment était très loin de ce texte allemand. Et j'en parle à l'éditeur qui lui-même ne lit pas l'allemand. Et je leur dis, mais écoutez, c'est extraordinaire, je veux absolument faire ce texte. Vraiment, je vous supplie. C'était vraiment... je leur fais vraiment un... Enfin, je leur explique que je veux le faire, que franchement, j'en rêve. Quoi. Et donc, voilà, on se lance là-dedans. Et ils ont découvert donc, le texte dans ma traduction, puisque, comme j'ai dit, ils n'ont pas de... Ils ne pouvaient pas accéder au texte original. Et on s'aperçoit de plus que voilà, que ça se tenait parfaitement par rapport à sa version turque, qui est fort différente et à la fois, elle est moins poétique, plus crue. Visiblement, l'éditeur turc lui a demandé de tirer un peu dans le sens du trash, quoi. En même temps, je pense que même la version française qu'on a ici sous les yeux, elle est assez crue. Enfin, il y avait des scènes de... C'est pas du tout édulcoré, mais il y a à la fois une sorte d'immédiateté, de l'expérience, du voyage, des rencontres amoureuses, des rencontres littéraires quoi, avec ses écrivains qu'elle aime, qu'elle est venue retrouver.
Oui, parce que le livre a un sous-titre que je n'ai pas donné en annonçant l'émission, c'est « Voyage sur les traces de Kafka, Svevo et Pavese ».
Voilà, absolument. Donc c'est un voyage littéraire, mais qui n'a rien d'abstrait et rien d'éthéré. On est vraiment dans la vie, on est dans des trains, dans des rencontres, par exemple... Il y a un moment que j'adore, c'est sa rencontre avec la fille de Svevo. C'est un moment magnifique. Elle rencontre, donc c'est une femme âgée qui a 84 ans et qui porte encore tout ce passé austro-hongrois quoi, de Svevo, tous ses souvenirs, toutes ces constellations familiales qu'il y avait autour de lui. Et moi, j'adorais la façon dont cette femme, dont là, je reparle de Tezer, va chercher dans la vie quoi, les traces de ses amours en littérature, quoi. Ça n'a rien d'une sorte de quête abstraite. Non, c'est vraiment, elle est dedans et tout en cherchant et tout en retrouvant comme ça ces fantômes, quoi, ces fantômes littéraires, elle vit intensément, quoi. Je trouvais ça magnifique.
Alors c'est un livre, répétons-le, qui est une véritable découverte, un auteur aussi qui est une découverte. Le livre s'inscrit dans le prolongement de celui que vous citiez tout à l'heure, Nuit froide de l'enfance, qui a été traduit en 2011 chez le même éditeur, c'est-à-dire aux éditions Bleu Autour. Et il faut dire que, malheureusement, nous sommes obligés de parler au passé de Tezer Özlü, hein, puisqu'elle est morte en 1986. Très jeune, elle était née en 1942.
Donc en fait, elle est morte très peu de temps après l'écriture de ce livre, de maladie, en fait, pas du tout de suicide. Mais je trouve qu'il n'y a absolument rien de crépusculaire dans ce livre qui pourtant parle de ces grands morts, de ces grands suicidés. En fait, il y a ce qui m'a séduite vraiment dès la première lecture, c'était la vitalité. On dirait que plus elle avance sur les traces de ses morts et à la rencontre... En fait, le but du voyage, c'est quand même le suicider Pavese. Il s'agit d'aller jusqu'à lui, d'aller... J'étais venue pour l'aimer, elle dit quelque part. Je trouve ça magnifique. Et plus on avance comme ça vers la mort, plus elle se redéploie. Parce que le début est assez sombre. Elle part de Berlin, où elle est en séjour pour un an. Là-bas, tout se passe assez mal. On est comme ça dans une atmosphère assez morbide, sinistre. On a l'impression que rien ne va plus. Plusieurs amis ou amis d'amis viennent de mourir. Enfin, le début est assez glaçant. Et plus on avance dans cette espèce de... Enfin, c'est une errance, hein. C'est pas du tout un voyage direct. On passe par la Yougoslavie, puis par Vienne, par Prague. Enfin, c'est tout une sorte de ricochet sur la carte de l'Europe, d'où la couverture d'ailleurs qu'on a mise pour qu'on puisse y retrouver un petit peu, parce que elle prend tellement de trains, de cars, de voitures que par moment on sait plus trop où est son chemin. Et moi j'ai un peu perdu le fil de ma phrase. Voilà, plus elle avance dans cette quête, plus elle on a l'impression qu'elle se ressaisit.
Ouais.
Elle ressaisit son être, elle se réinstalle dans la vie, dans son présent. Et c'est de plus en plus solaire, en fait, étrangement.
C'est le récit d'un voyage réel qu'elle a fait en 1982 sur les traces de ceux qu'elle appelle ses frères d'âme.
Voilà, ses frères d'âme.
Qui sont Zvevos, c'est Pavese et Kafka. Alors, on la voit hantée, en fait, par des réminiscences proche et lointaine. C'est ce que vous dites dans votre présentation du livre. Celle de son enfance en Anatolie, celle des épisodes d'internement où elle a subi la violence des électrochocs. Et ça, on peut le voir dans le livre précédent. Celle des répressions en Turquie aussi, d'anciens voyages en Europe, de ses mariages et d'autres amours passés. Mais ce livre-là, vous le disiez, elle n'a pas le temps de s'en occuper pour lui trouver un éditeur en Allemagne.
Oui, voilà. Enfin, peut-être qu'elle laisse ce projet de côté. Enfin, elle a eu beaucoup de projets autour de ce livre. En particulier, elle en a tiré un scénario qu'on a mis à la fin du texte. Et il y a eu des pourparlers avec plusieurs cinéastes allemands pour le réaliser. Je crois que Wender s'était intéressé à un moment. Enfin bon, on en rêverait, quoi. Dommage qu'elle n'ait pas eu le temps de mener ses projets jusqu'au bout. Effectivement, la mort vient la prendre, je crois, 3 ou 4 ans après la fin de son travail sur ce texte. Donc voilà, l'histoire de ce manuscrit est un peu... Il est allé dormir dans ses archives, un peu à l'insu de tous, quoi. Il y a aussi ça, quoi. Je trouvais ça magnifique, cette espèce de résurrection, comme ça, d'un trésor. Je trouve que c'est un trésor, ce texte.
Et pourquoi a-t-elle choisi de l'écrire en allemand?
Alors là, j'ai dû consulter pour ça l'éditeur qui connaît mieux, enfin évidemment qui a accès à ses écrits en turc. Apparemment, en Allemagne, ce qu'on traduisait du turc, c'était essentiellement du roman réaliste, voire naturaliste. Et comme c'est absolument pas sa veine... Elle craignait de ne jamais être vraiment traduite et diffusée en Allemagne. De plus, elle parlait très bien l'allemand. Elle avait fait une partie de ses études secondaires au collège autrichien d'Istanbul. Donc elle avait une pratique de l'allemand tout à fait fluide. Elle connaissait extrêmement bien la littérature allemande. Ça se sent, mais enfin, elle cite à l'occasion. Enfin, on sent qu'elle connaît très bien Kafka, bien sûr, mais elle parle de Goethe, elle parle de Schiller. Je crois que Hölderlin aussi l'a beaucoup marqué. Voilà. C'est un univers dans lequel elle baigne. Et puis, je ne sais pas, mais parfois, le choix d'écrire dans une langue qui n'est pas la sienne peut... On va vers une sorte d'épure. On est un peu forcé, acculé à une simplicité. Je trouve que la langue est relativement simple, en fait. Elle est forte, elle est percutante. Mais souvent, on est dans des phrases simples qui s'assoient comme ça, paf.
Qui sont taillées dans l'intensité.
Absolument. Alors, est-ce que c'est lié au fait que ce ne soit pas sa langue? Et donc, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, moi, j'étais heureuse de pouvoir la rencontrer sur un terrain qu'on avait en commun. Même si, évidemment, idéalement, ça aurait été mieux que je parle aussi le turc pour comprendre peut-être un sous-texte qu'il y aurait dans... Mais en même temps, elle a choisi d'écrire dans cette langue, avec les mots qu'elle a dans cette langue. Pourquoi ne pas la rencontrer sur ce terrain?
Voilà, Donnons peut-être quelques jalons biographiques plus précis. Je disais qu'elle était née en 1942 dans un bourg d'Anatolie centrale. Ses parents étaient enseignants et ils ont eu trois enfants qui, tous les trois, ont eu un destin littéraire.
Absolument, ouais. Donc, elle a une sœur qui est une grande traductrice de l'allemand, je crois. C'est donc elle qui nous a permis de retrouver le manuscrit. Et puis, un frère qui est également homme de lettres, si je ne dis pas de bêtises. Oui, donc c'est une famille qu'elle-même décrit comme étouffante, médiocre, petite bourgeoise, mais qui a néanmoins produit trois forts personnages. De plus, quand elle cite la culture littéraire qu'elle avait à 13-14 ans, on a du mal à la prendre au sérieux quand elle nous parle de cette espèce de sclérose, de milieu étriqué. Enfin, elle a déjà lu Dostoïevski, Gogol. Enfin, c'est assez extraordinaire. Ce qui est très beau aussi quand elle parle avec la fille de Svevo et que cette dame lui parle de ce qu'elle disait adolescente, elle s'aperçoit qu'elles ont eu la même éducation littéraire. La fille de Svevo, à qui Svevo faisait lire justement ses grands classiques, elle se disait, mais c'est fou, cette dame qui a 84 ans, qui est née dans la grande bourgeoisie austro-hongroise et moi, née dans mon bled d'Anatolie. On a eu la même formation d'une certaine manière. Et d'ailleurs, elle parle allemand entre elles. Elle parle un allemand littéraire. Je trouvais ça très beau, ces diverses rencontres autour de la langue, autour d'une culture littéraire commune, mais qui est vraiment incarnée. Il ne s'agit pas du tout, on ne se paye pas de mots. On est vraiment dans une façon vraiment intense de vivre la littérature. C'est une ode au pouvoir de la littérature, je trouve.
Pourquoi ses parents l'ont-elles inscrite au collège autrichien d'Istanbul ?
Alors, il aurait fallu pouvoir demander à l'éditeur. Moi, je ne sais pas. Peut-être que c'était... Je ne sais pas.
En tout cas, le collège a eu une forte influence sur elle. Elle écrit « Cette prison m'a donné une langue. » Une langue et avec elle, un deuxième monde.
Oui, justement. Oui, elle a des phrases très fortes sur la langue, sur le lieu de la langue, quoi. Le lieu de la personnalité, le lieu de la langue. On dirait que la langue allemande l'a un peu arrachée à son premier monde. On ne sait pas toujours si c'est positif ou négatif quand elle en parle. Ça a l'air d'être assez ambivalent. Et puis quand elle parle de ses années d'école, elle en parle un peu comme une sorte de bagne, enfin de lieu de coercition atroce. Je pense qu'elle était totalement rebelle, quoi. Elle devait fuguer en permanence. Enfin, quand son autobiographie est complètement explosée, quoi. C'est pas du tout une bonne élève. Hein. Ça devait être une des élèves les plus difficiles de ce collège. Mais néanmoins, elle en a tiré le meilleur, quoi, dans sa vie.
Au début des années 60, avec sa sœur, elle commence à voyager pour fuir leur pays morne.
Voilà, c'est ça. Je crois que morne est son mot préféré en parlant de ça. De ses années d'apprentissage et d'enfance.
Autriche, Allemagne, Hollande et, en 63, au printemps, Paris.
Paris. Où elles vont tout de suite, je crois, dans un café de Montparnasse.
Le Select.
Voilà, c'est ça, le Select. Et tout de suite, elles s'y trouvent un mari, parce que c'est quand même le moyen le plus simple de sortir de son milieu. Et puis, je crois qu'elle le quitte assez vite. Elle a aussi une vie amoureuse et conjugale très, très mouvementée.
Ce mari était fou des chansons de Léo Ferré. D'ailleurs, il y en a une trace dans l'un des chapitres de « Nuit froide de l'enfance ». Elle rentre à Istanbul et elle commence à publier des nouvelles dans les revues. Elle est aussi, à partir de ce moment-là, traductrice de l'allemand. Et elle participe activement à la vie d'un théâtre très célèbre, le théâtre Ast.
Oui, j'ai l'impression qu'elle évolue vraiment dans un milieu d'une bohème, quoi, la bohème des jeunes artistes turcs. Enfin, ça a l'air absolument foisonnant comme vie culturelle à cette époque. Enfin, pour moi, c'était très déroutant. Je ne connaissais absolument pas ce monde et... C'est aussi présent quand même, de temps en temps, dans le texte. On voit apparaître. C'est vrai que toutes les strates temporelles y sont, donc de temps en temps, il y a aussi quelques mentions sur. Quand il faisait ses conversations dans les cafés enfumés jusqu'aux petites heures où tout le monde se saoule. Enfin, c'est une vision de la Turquie qui n'est pas forcément celle qu'on a en tête. Enfin, Je trouvais ça passionnant. Quoi,
Il y a une intruse qui va s'inviter dans sa vie, c'est la maladie.
Oui.
Une maladie maniaco-dépressive. Et entre 67 et 72, elle sera à plusieurs reprises internée dans des hôpitaux psychiatriques.
Oui, quand elle fait un tableau peu engageant, je dirais.
Elle parle de ça,
elle parle même d'avoir été violée soit par les médecins, soit par des infirmiers. Enfin, est-ce que c'est réel? Je ne sais pas. Mais en tout cas, d'après les éditeurs, c'est vraiment sa volonté de ne plus être hospitalisée qui l'a fait s'en sortir, en fait. Dans le livre, on a l'impression d'une reconquête volontariste de son moi par le voyage, par la lecture, par la littérature et par cette façon d'aller vivre à l'endroit où on est, dans l'instant où on est. Enfin, c'est le contraire de cette... je ne sais pas si on peut aller jusqu'à parler de folie. Il me semble pas, c'est le texte de quelqu'un qui est complètement... Mais en tout cas, son trouble, il me semble qu'elle le surmonte en recollant les parties de son moi dans ce voyage, quoi, dans ce récit de voyage qui est fait d'ailleurs au fur et à mesure. C'est un journal de voyage, en fait. En pleine Coupe du Monde de football, d'ailleurs, de 82. Elle en parle beaucoup, surtout au moment où elle est à Trieste, je crois.
Il y a un premier livre qui est publié en 78, c'est L'Ancien Jardin, qui est un recueil de nouvelles. Alors celui-là n'est pas traduit
en français.
Et c'est en 80 que paraissent Les Nuits froides de l'enfance, roman autobiographique selon ses propres mots, livre qui va avoir en Turquie un grand retentissement. Livre qu'on peut dire culte.
Oui, exactement.
Très moderne par sa forme.
Mais il paraît que c'est deux œuvres majeures, quoi. C'est-à-dire la version turque du texte dont nous parlons et son autobiographie sont vraiment des livres cultes pour toute une jeunesse, encore maintenant, quoi. Il me semble qu'ils m'ont dit avoir rencontré une jeune fille qui ne jurait que par elle, qui allait sur sa tombe. Enfin, c'est étonnant de voir à quel point elle a pu marquer les esprits au-delà de sa propre génération. Mais pour en revenir à la maladie...
Écrire est une maladie, a-t-elle dit.
Pardon ?
Écrire est une maladie.
Écrire est une maladie, mais oui. Une maladie qu'elle maîtrise beaucoup mieux. Mais la maladie s'invite aussi dans le texte, c'est-à-dire que, sans être complètement déroutant, le texte est marqué par des sortes de décrochages. Alors, sont-ils calculés ? Peut-être un peu aussi. Mais on a des décrochages temporels, comme ça, des va-et-vient entre époques.
La chronologie est bouleversée.
Oui. Alors, en fait, j'ai réfléchi au fait que quand on est en voyage... On ne peut pas tout le temps noter, donc il est aussi normal qu'il y a des moments pour prendre des notes, pour noter l'expérience, et puis des moments où bon, elle est en voyage, elle est en train, elle ne peut pas non plus. Donc je pense qu'il y a un aspect qui tient simplement au fait qu'elle écrit au fur et à mesure, enfin, au fil de l'expérience. Mais il y a aussi des choses qui sont à dessein troublantes, quoi. Quand elle dit « tu », au début, elle dit tu, mais à elle-même, elle dit tu à son amant en titre, enfin qu'elle vient de quitter en fait, elle dit tu à son deuxième mari, enfin, et donc dans les premières pages, j'en dis mais bon sang, ça scintille, on ne sait pas où est-ce qu'on est, à qui elle parle, et ce il, alors c'est tantôt tel ami, tantôt c'est Peter Weiss qui vient de mourir, et en fait, ce que j'ai apprécié aussi, c'est qu'il fallait simplement se laisser aller, en disant oh, je ne comprends pas très bien, mais je me laisse aller, voilà. Elle me prend par la main. En tout cas, il se passe quelque chose de très fort. Je vais y aller. Et puis, en fait, je trouve que finalement, on s'y retrouve très bien. Quand
oui. Puis, il y a un scénario qui est net, clair et net. Le premier tiers du livre est écrit à Berlin. Ensuite, elle part pour ce périple de 7000 km qui la conduit à Prague sur la tombe de Kafka, à Trieste sur celle de Svevo, et enfin à Turin sur le boulevard de Cesare Pavese. Dans ses cafés, son bureau, sa maison natale, la chambre où il s'est suicidé.
Et Nuto, le menuisier qui était son meilleur ami, c'est aussi très très beau ce passage où elle va chez Nuto et il la reçoit, il lui parle de lui et c'est un vieux monsieur. Il y a quelque chose de très charmant. Je ne sais pas si je peux employer ce mot un peu bébête, mais c'est vraiment il y a quelque chose de charmant, quoi. Enfin, ça illumine le monde un peu sombre de Pavès. Et on sent qu'il y avait aussi de la lumière. Il y avait une lumière qui n'est pas seulement la lumière crue du mois d'août, des vacances d'août, mais aussi une lumière d'amitié, d'amour du métier, des choses. Et elle ressent, enfin, je veux dire, c'est une personnalité extrêmement sensible, quoi.
Pendant les 10 jours du voyage, elle dort très peu et elle écrit sans arrêt, partout, dans les trains, les gares, les hôtels.
Elle fait l'amour aussi.
Oui, elle fait l'amour.
Souvent.
Elle écrit, elle fait l'amour, mais c'est un peu la même chose. Le livre traduit d'ailleurs cette quête de sens dans tous les sens du terme.
Oui, c'est vrai, c'est une élaboration permanente de ce qui advient, quoi, de ce qui... Même des petites choses, des petites scènes vues, des hasards, des choses qui peuvent paraître même presque triviales, en fait. Je parlais des matchs de foot, en fait. Mais je trouve que ça prend sens dans son narration. Ce moment où elle est en communion avec ses auteurs, dans ces villes italiennes qu'elle voit pour la première fois. Au même moment, toute l'Italie est en train de se réjouir. Enfin, elle est complètement déphasée par rapport à l'environnement. Enfin, tous les gens qui sont là pensent à autre chose. Et elle est là avec Pavès et Svevo. C'est assez drôle, en fait. Je trouve qu'il y a vraiment des passages qui sont profondément drôles. Enfin, il y a beaucoup d'humour. Souvent de l'humour assez caustique, mais c'est percutant. C'est tout sauf sinistre. Quand on lit le sous-titre du texte allemand sur les traces d'un suicide, on se dit « Oh là là, ça va être terrible ». En fait, pas du tout. Moi, souvent, j'ai ri en traduisant. Elle a de ces petites phrases comme ça, paf. Je suis tombée sous le charme de son style, de son esprit, quoi, de sa façon de voir le monde à la fois très sensible et puis capable même d'une certaine... certaines vacheries de temps en temps.
Ce que le lecteur partage aussi, c'est cet incroyable sentiment de liberté, qu'elle exprime. Liberté amoureuse, par exemple.
Liberté amoureuse. Je crois que tout ça fait un tout, quoi. Il y a la liberté amoureuse, la liberté du déplacement. Elle dit une phrase magnifique sur les rails. Les rails qui, elle dit, pour moi, les rails ont toujours représenté un infini, quoi. Voilà. C'est l'absence de limite. Les rails, c'est... Et donc, effectivement, on passe son temps dans des trains, dans des vieux compartiments, des banquettes défoncées. Enfin, il y a une joie comme ça du déracinement permanent et de la liberté qui consiste à voir défiler, à voir du pays, à voir le monde passer de l'autre côté de la vitre et de voir un train qui passe en sens inverse et emporte d'autres gens, d'entendre ces riens dans la direction opposée. Et c'est enivrant, quoi.
Ce qui est très fort aussi, c'est la relation qu'elle écrit avec les inconnus, des inconnus.
Oui, il y a une façon d'entrer de plein pied, comme ça, dans la vie, dans la vision du monde de quelqu'un d'autre, qui souvent, c'est une rencontre de hasard. On dirait que tout compte avec elle. Même il y a Ladislav, là, ce jeune Hongrois qu'elle rencontre une seule nuit, en fait. Et elle le marque tellement qu'il passe 24 heures de plus. Est-ce que c'est à Vienne ou à Prague? Je m'embrouille maintenant, je ne sais plus. Je crois que c'est à Prague. Oui, c'est ça, c'est à Prague. Il passe 24 heures de plus dans la ville, rien que pour la revoir une seconde avant qu'elle prenne son train. On dirait que sa façon intense de vivre les choses était terriblement contagieuse. C'est-à-dire qu'elle devait marquer énormément ceux qu'elle avait croisés, ne serait-ce que quelques heures. Puis il y a aussi ces jeunes gars italiens qu'elle rencontre dans la rue. Je crois que c'est à Turin et qui... Je crois qu'ils font leur service militaire et ils n'en reviennent pas, quoi. Cette femme de 42 ans, là, qui vit, mais d'une façon mais plus libre qu'ils n'ont jamais imaginé. Puis ils disent, oh, mais votre vie, ça a l'air d'être tellement extraordinaire par rapport à la nôtre. Ils en sont babas, quoi. Et comme ça, mais elle entre en conversation avec des inconnus, avec l'italien qu'elle parle... Enfin, elle ne l'a jamais appris, je crois. Enfin, elle le connaît suffisamment pour le lire, mais je crois qu'elle n'a pas appris à l'école, donc elle parle comme elle peut. Enfin, il y a une sorte de désir de contact et de partage, et de simplement de connaître les gens, de comprendre comment d'où ils viennent, comment ils fonctionnent. Aussi, cette conversation, c'est presque une sorte de poème en prose qu'elle a avec la vieille réceptionniste de l'hôtel. Il y a une toute vieille femme, toute ratatinée, qui est toujours sur sa chaise. On a l'impression que c'est une parque, en fait. Et à un moment, elle commence à lui parler. Elles ont une conversation mais surréaliste, quoi, sur la vie. Sur, et c'est, je trouve ça... Je sais pas, c'est inouï, quoi. C'est, on n'est plus dans le réalisme, là. Et en même temps, je pense que c'est authentique, mais elle en fait quelque chose de quasiment fabuleux. Fin...
Ce qu'on retient, c'est l'incandescence de ces phrases.
Oui, absolument. Incandescence, c'est un très bon mot pour la caractériser. C'est plein de lumière, hein, tout ça.
On disait qu'elle était morte très jeune, en février 86, dans un hôpital de Zurich. Quand elle est enterrée, le 25 février, à Istanbul, il y a des centaines d'amis qui l'accompagnent. Et c'est sa sœur, Césaire, qui va jouer un rôle déterminant dans la diffusion de son œuvre. En France, il n'y a guère que ces deux livres qu'on peut lire.
Ça va peut-être venir. Je pense que vraiment, j'ai fait une... Je suis très heureuse à faire ces découvertes. Quoi. Ça m'a vraiment apporté quelque chose. Et j'espère que son œuvre va continuer à se développer, à être mieux connue. Quoi. Pas seulement en France, d'ailleurs. Il est dommage que ce texte qui a été écrit en allemand ne soit pas disponible pour les publics allemands, par exemple.
Il est dommage aussi que la presse française ne se soit pas fait beaucoup l'écho de la publication de ce livre.
Quand même.
Des petites choses.
Oui, mais belles. Hein. Enfin, surtout, c'était juste, c'était parfaitement bien vu. Quoi. Enfin, tout ce que j'ai lu, c'était ils n'étaient pas du tout passés à côté ni du personnage, ni de l'œuvre. Et tant mieux, quoi. Vraiment, c'est une heureuse nouvelle.
Diane Meur a traduit La vie hors du temps, voyage sur les traces de Kafka, Svevo Pavese, de Teser Özlü aux éditions Bleu Autour. Du jour au lendemain, Éric Boisset, Anne Franchini, François Poirier, Alain Weinstein. Bonsoir.